Très bien, donc avant que nous ne prions, oui, c'est ça, que nous ne prions, nous allons encore étudier la parole de Dieu, la méditer un peu. 1 Timothée chapitre 4, c'est le chapitre que nous sommes en train de voir. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée chapitre 4, qui est la lettre que Paul écrit à Timothée, ici. 1 Timothée chapitre 4, et je vais lire ce chapitre encore une fois. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce droit à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, j'ai une petite question pour vous. La Bible parle souvent, en tout cas, il y a plusieurs endroits où on peut trouver que l'Écriture qualifie certaines choses de bonnes. D'accord ? Ça peut être des choses, ça peut être aussi des personnes. Alors, est-ce que vous avez, comme ça, de mémoire, on va faire un petit effort là pour se rappeler quelques-unes de ces choses qui sont qualifiées de bons ou de bonnes dans l'Écriture. Okay. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que la Bible qualifie de bon ou de bonne? Ça peut être des personnes aussi. Hein. La création, tout ce que Dieu a créé est bon, d'accord? C'est ce qu'on a lu au verset 4, hein, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a créé est bon, donc voilà, il y a toute la création. Est-ce qu'il y a spécifiquement des choses, par exemple? Vous vous rappelez, dans l'Écriture, hein? Soyez bons, oui, les uns envers les autres, ça c'est bien, mais plus, ça c'est une exhortation à être d'une manière, mais plus on veut un qualificatif, quelque chose qui est bon, qui est... Mais c'est vrai, c'est une exhortation où on exhortait à être bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
La parole de Dieu.
Oui, il a dit quelque part qu'elle est bonne.
Oui,
je me rappelle. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Donc, de toute façon, nous savons qu'elle est bonne et qu'elle est précieuse. Hein. Dieu est bon, la Bible dit, hein, Dieu est bon, très bien. Il y en a d'autres, il n'y a pas d'autres ? Une bonne conscience, le bon fruit, le bon arbre, le bon vin. Oui, bonne attitude. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? Pour les personnes, est-ce qu'on trouve des personnes qui sont... le bon samaritain, c'est le titre, qui est le sous-titre qui est écrit comme ça. Mais ce n'est pas écrit que c'était un bon samaritain. Mais il était bon. C'est vrai. Le bon, par contre, il y a le bon. Je suis le bon berger. Hein, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. La bonne nouvelle. Les bonnes œuvres. La bonne, on a vu tout à l'heure, la bonne doctrine. Très bien. Oui,
le bon vin.
Le bon vin aussi, on a dit, oui, le bon vin. Oui, le bon soldat. Mais c'est bien de se rappeler de tout cela quand même. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le bon, de toute façon ? Ça veut dire qu'il y a... Ah oui ? Non, mais ça veut dire qu'il y a aussi, par opposition, du mauvais. S'il y a du bon vin, c'est qu'il y a du mauvais vin. D'accord ? S'il y a un bon berger, c'est qu'il y a des mercenaires. Et donc, ça doit nous faire réfléchir, hein, quand même. La Bible qualifie de bon beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a le bon combat ? Hein ? Il y a des combats qui ne sont pas les combats du chrétien. Ce ne sont pas de bons combats. Le bon dépôt, l'apôtre Paul dit, garde le bon dépôt. Hein. La bonne doctrine, on l'a dit. Et puis, la Bible parle aussi de l'homme bon qui tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et puis, il y a aussi le bon serviteur. Hein? Il y a le bon et fidèle serviteur, mais dans Luc, je crois qu'il dit le bon serviteur. Donc, il y a des personnes qui sont qualifiées de bonnes, de bons. Et donc, ça doit nous faire réfléchir à ce que ça veut dire d'être bon. Et particulièrement, ce soir, je voudrais qu'on regarde ce que ça veut dire qu'être un bon serviteur, un bon ministre, un bon pasteur, par exemple. Puisque l'apôtre Paul écrit à Timothée, qui est pasteur de l'Église. Donc, on va rester dans ce cadre, pasteur de l'église d'Éphèse. Et il lui dit qu'il sera un bon ministre de l'Évangile. Alors, selon nous, si on doit nous poser la question, qu'est-ce qu'un bon ministre de l'Évangile, un bon pasteur ? C'est de penser à ce que vous auriez dit. Je ne veux pas de dire, forcément, hein, pour ne pas me faire descendre de là, mais imaginez ce que vous pensez être un bon pasteur. Pour vous, c'est quoi un bon pasteur ? D'accord ? Peut-être que quelques personnes diraient, bon pasteur, ça se remarque. Il y a des gens qui disent que ça se remarque à la taille de l'église, parfois. Hein. C'est un ministère extrêmement fructueux, donc il a porté beaucoup de fruits, donc c'est évident qu'il est un bon pasteur. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup de fruits, qu'il n'est pas mon pasteur. Mais est-ce que c'est comme cela ? Est-ce que c'est un bon critère ou pas ? Je ne sais pas. D'autres, peut-être, pensent au fait que c'est quelqu'un qui est invité partout. Hein ? Bien invité partout dans toutes les églises. Il est très demandé. Hein ? On peut penser, voilà, c'est un bon serviteur parce qu'il est quand même demandé partout. C'est possible aussi. Mais est-ce que c'est un critère suffisant. Est-ce que vous pensez à d'autres critères que l'on peut avancer comme ça, même si ce n'est pas le vôtre, mais que vous entendez peut-être avancer ici ? Oui, il est très éloquent. Quelqu'un peut être très éloquent. Oui. Quelqu'un qui... Oui. D'accord. Là, tu me dis, d'accord, quelqu'un qui imite Dieu. Très bien. D'accord. Oui. Oui. Mais je pensais en général... Ce qui vient parfois, qui peut venir dans l'esprit des gens de manière naturelle. Hein. Quand on pense, on se place vraiment dans l'écriture, on pense autrement, mais souvent on pense peut-être à beaucoup d'autres choses. Peut-être qu'on peut penser maintenant dans les temps modernes que ces vidéos ont beaucoup de, comment on dit ça, des followers, c'est ça, beaucoup de likes, hein, beaucoup de likes sur ces vidéos. Il a une compétence qui est reconnue, il écrit beaucoup de livres. C'est quelque chose qu'on dit, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, hein, etc. Alors, est-ce que toutes ces choses sont mauvaises ? Non, il a le sens, par exemple, de l'administration. Hein, c'est quelqu'un qui peut administrer bien les choses. Parfois, on dit, il a des personnes, il a un cœur de pasteur parce qu'il est vraiment avec les gens, etc. Est-ce que toutes ces choses sont certainement bonnes? Alors, Paul, dans le passage que nous avons lu, tout le chapitre 4 est une exhortation, on pourrait dire, à être un bon ministre de Jésus-Christ. Regardez le verset 6, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Un bon ministre. Et c'est pour ça que je vais vous demander qu'est-ce qu'on appelle bon. Ça veut dire qu'il y en a qui sont de mauvais ministres, particulièrement ceux qu'il a décrits auparavant. Hein? On se rappelle, il dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, etc., par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc il décrit toutes ces personnes-là avec ce qu'elles disent, etc., et qui distillent un faux enseignement. Et qui ne sont pas de bons ministres de Jésus-Christ. Le mot ministre ici, c'est le mot qui donne le mot diacre parfois, c'est le mot serviteur. Ce ne sont pas des bons serviteurs. Donc on pourrait dire qu'un bon ministre, c'est d'abord un bon serviteur, quelqu'un qui est là pour servir, comme Jésus, le frère a dit tout à l'heure, il faut imiter, hein, comme Jésus qui a dit, je suis venu, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. Alors, il est intéressant de noter ici que tous les critères que nous avons pu donner, Paul ne les donne pas quand il parle du bon serviteur, du bon ministre. Hein. Il dit une chose, on va regarder le verset 6, il dit, en exposant ces choses, tu seras un bon ministre de Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et puis après, il donne un tas de choses qui viennent par la suite, on ne pourra pas tout voir, mais qui, je pense, décrivent ce que c'est vraiment que le bon ministre de Christ. Alors, quelles sont les choses qu'il dit ici? Je vais en garder trois pour ce soir. Il dit d'abord que le bon ministre, on pourrait voir que le bon ministre, je le mets dans l'ordre où je le vois ici, mais après on va le faire dans un autre ordre. Le bon ministre ici, c'est celui qui, c'est facile à voir, hein, verset 6, il fait quoi? Il expose les choses, ces choses, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire. Ce sont les, on va voir après ce que c'est, mais en tout cas, il expose la parole de Dieu, de manière générale, aux frères. Et puis il dit, tu seras un bon ministre. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on pourrait souligner encore? Il se nourrit des paroles de la foi et de la bonne doctrine. D'accord? Et puis troisièmement, verset 7, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse les contes. Alors vous avez peut-être profane et absurde dans votre Bible. Parfois c'est écrit profane de vieilles femmes. Hein? On va voir un petit peu ça. Et puis après, aussi on pourrait dire qu'il s'exerce à la piété, tout ça. Il y a toutes ces choses qui viennent derrière, mais on n'aura pas le temps de voir tout cela. La première chose que je voudrais souligner, c'est qu'un bon ministre se nourrit, je pense que ça vient avant même le fait, même si l'apôtre Paul l'a mis là, mais on pourrait penser qu'un bon ministre, voilà, il doit dispenser la parole de Dieu, mais avant de dispenser la parole de Dieu, il faut être nourri de la parole de Dieu. Et donc, premièrement, on pourrait le mettre dans ce sens que le bon ministre est celui qui se nourrit des saintes écritures, de la parole de Dieu. En exposant ces choses, dit l'apôtre Paul, tu seras un bon ministre de Dieu, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Et le sens, même le temps dans lequel le verbe est conjugué, suggère qu'il y a une continuité. Hein, il se nourrit continuellement de la parole de Dieu. C'est pas de temps en temps, mais continuellement. Il reçoit continuellement la parole de Dieu et il s'en imprègne. C'est ce sens que contient ici le mot. Le mot, il est nourri, hein. Comme quelqu'un qui se, je sais pas, on peut dire à quelqu'un, bon, si tu regardes tout le temps ça, tu vas te nourrir de cela, hein. C'est-à-dire, tu vas faire pénétrer cela dans ton âme. Et là, ici, Paul encourage Timothée à s'imprégner vraiment de la parole de Dieu. La première chose, donc, il doit se nourrir lui-même. Quelque part, Paul dit à Timothée, avant de penser aux autres et d'enseigner aux autres, tu dois penser à l'état de ton âme en premier, toi-même. Alors, c'est bon toujours de penser aux autres, mais ça peut arriver quand on est prédicateur, parfois, de penser toujours aux autres et à la préparation d'une prédication pour les autres. et de finir par oublier qu'on est le premier à avoir besoin de ce qu'on cherche à porter aux autres. Et je crois que c'est important, l'apôtre Paul dit à Timothée, quelque part, pense à toi-même ici, nourris-toi des saintes écritures. Et c'est ce qu'il dit un peu plus tard dans la lettre, il dit par exemple au verset 16, vous regardez, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Il dit pas simplement « Veille sur ton enseignement », l'enseignement c'est ce qu'il donne aux autres, mais il lui dit « Veille d'abord sur toi-même et sur ton enseignement ». Et donc, il dit parce que ainsi, il persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Autrement dit, ici, on voit que Timothée est appelé à être vigilant pour lui-même et en premier lieu, il a autant besoin du salut qu'il va prêcher aux autres. Donc, il dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Donc, il a c'est-à-dire, il ne doit pas être celui qui dit attention, mes frères, attention, etc. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais est-ce que nous faisons ceci, est-ce que nous faisons cela? Et puis que lui-même, il ne le fasse pas. D'accord? Donc, il est important d'être d'abord nourri soi-même. Et donc, se nourrir de quoi ici? Est-il question de quoi est-ce qu'on se nourrit ici? Des paroles de la foi et de la bonne doctrine. C'est-à-dire que il doit être un homme qui passe du temps dans la parole de Dieu, qu'il étudie pour lui-même. C'est-à-dire que même s'il n'avait rien à prêcher aux autres, il devait continuer à le faire. Donc, quelque part, ça nous intéresse tous. C'est-à-dire que ce que l'apôtre Paul dit ici, on imagine mal qu'il dise à Timothée, « Toi, tu dois te nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine. » Par contre, les gens de l'Église peuvent se nourrir de télévision, de films, de YouTube, etc. Que c'est pas grave, ce sont les gens de l'Église. Mais toi, le pasteur, tu ne peux pas faire ça. Non, ça, c'est ridicule, n'est-ce pas? Ce qu'il dit ici à Timothée, on comprend bien que cela s'adresse aussi à toute l'Église d'Éphèse et donc à chacun d'entre nous. Nous tous, nous avons quelque part... On est quelque part dans ce ministère où on va parfois aider quelqu'un, parfois enseigner quelqu'un, seul à seul, etc. On va, et on a besoin nous-mêmes d'être nourris, continuellement nourris, de la parole de Dieu. Donc, il dit, et c'est de la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu dois être nourri. Ce ne sont pas les émissions TV, les vidéos de YouTube, les sorties cinéma qui doivent nous nourrir ou le fait d'être informé sur tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas mauvais de savoir des choses de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas mauvais, parfois, d'étudier certaines choses, même qui sont dans le monde. Mais il dit que la chose principale que doit faire qui fait le bon ministre de Jésus-Christ, c'est qu'il se nourrit, qu'il étudie la parole de la foi et la bonne doctrine. Alors ici, on comprend bien que les paroles de la foi et la bonne doctrine, ça englobe l'Évangile, en gros, tout ce que l'Évangile enseigne, toute la doctrine apostolique, toute la doctrine biblique. Il doit avoir donc une bonne connaissance intellectuelle, ça veut dire, de la parole, mais il doit avoir aussi une connaissance expérimentale de la parole, c'est-à-dire que c'est la parole qui doit former sa manière de penser et sa manière d'aborder les problèmes. C'est-à-dire que si quelqu'un vient voir, même pour tout enfant de Dieu, quelqu'un vient voir un enfant de Dieu, il pose une question, il ne doit pas répondre. Moi, je pense que tu peux faire comme ça. Moi, je pense, surtout entre deux chrétiens, je parle. Moi, je pense que tu peux faire comme ça, etc. Il doit pouvoir, s'il donne un conseil, fonder son conseil sur la parole de Dieu. Et pour le faire, il faut être nourri de la parole de Dieu. Pour que le sens de nourri, c'est ici quand il dit, parce qu'après il dit qu'il faut l'exposer aussi, donc il est nourri d'une manière telle qu'il la connaît, il sait que la parole de Dieu parle de ces choses, mais en même temps, il sait rendre cette parole vivante et efficace pour résoudre les problèmes que l'on peut rencontrer, par exemple. Souvent, il y a des questions, les gens posent des questions, mais comment est-ce que tu ferais ceci, etc. Le premier effet doit être, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce qu'il y a quelque part où la parole de Dieu traite de cela? Quel principe on peut s'appuyer pour prendre une décision dans ce domaine? Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et c'est pour cela que le bon serviteur, le bon ministre, il doit d'abord manger la parole. Comme Jérémie le disait, hein, il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et donc, cela implique, bien sûr, qu'il doit s'appliquer à l'étudier. Verset 13, regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Tu dois t'appliquer à ces choses. Tu dois mettre un soin particulier à étudier, à lire. Et puis après, tu pourras aussi exhorter et enseigner. Donc ça, c'est le premier point, je pense, sur lequel il est important d'insister ici. C'est le fait d'être saturé de l'écriture. Alors, on a des exemples de... Par exemple, je pense à Marie dans son cantique, ce qu'on appelle le cantique de Marie, hein, l'adoration de Marie dans l'évangile de Luc, quand elle commence avec « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Et puis après, elle exprime son adoration. Et pratiquement, je crois que chaque phrase qu'elle prononce est un extrait des Écritures. Et c'est une jeune adolescente. Et cela montre ici comment elle s'était imprégnée de la parole de Dieu. Il y a des relents de ce que Anne dit dans sa prière, hein, la mère de Samuel, dit sa prière qu'on retrouve dans la prière dans le cantique de Marie. Hein. Et cela montre à quel point elle connaissait la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est tellement... Elle s'en est tellement imprégnée que lorsqu'elle exprime de l'action de grâce, c'est pas de l'innovation, d'accord ? C'est pas quelque chose qui sort de son esprit et puis elle innove, elle fait de belles phrases. C'est la parole de Dieu qui rejaillit dans son cœur avec des citations. Et ce genre d'adoration, je crois, plaît à Dieu parce que c'est une adoration qui vient d'un cœur qui est pétri de sa parole. Donc je crois que nous sommes encouragés ici vraiment, parce que nous sommes tous appelés à être de bons serviteurs, premièrement à nous nourrir, mais convenablement de la parole de Dieu, la mémoriser, l'étudier, faire en sorte que ce soit elle qui rejaillisse de nos cœurs en premier lorsque nous sommes dans n'importe quelle situation. Même Paul, quand il écrit, il dit souvent, il écrit une chose et puis il dit selon qu'il est écrit, et on voit qu'il y a à chaque fois un rappel. Et une connaissance, Jésus c'était la même chose, une connaissance parfaite ici des Écritures. Alors bien sûr, parfois on peut dire, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup de... Bien sûr, il y en a qui ont plus de temps que d'autres. Hein, mais Dieu ne nous demande pas, si on a beaucoup de temps, si on n'a pas beaucoup de temps, il nous demande d'être fidèle avec ce que l'on a. Hein, et donc Dieu ne nous compare pas non plus. Mais on a le temps que l'on a, mais nous devons faire avec le temps que l'on a tous nos efforts pour être nourris de cette parole. Nous exposer à la prédication de la parole, mais nous exposer à la lecture personnelle et à l'étude personnelle aussi de l'écriture et de la parole. Donc c'est le premier point que je voudrais souligner. Deuxième point, ici, qui fait le bon ministre, il dit ici, verset 6, vous l'avez dit, hein, il fait quoi le bon ministre? Il expose aussi ces choses. Donc, il dit, tu seras un bon ministre, en exposant ces choses aux frères. Donc, je souligne que le bon ministre expose la vérité et les mises en garde aussi. Parce qu'il commence avec des mises en garde. Quand vous regardez le chapitre 4, il parle des faux docteurs, des esprits de démons, des gens qui se détournent de l'apostasie. Hein, l'apostasie. Et puis, au verset 6, il dit, et au verset 4, il dit, et 5, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc il dit ici, et en exposant ces choses, donc ces choses, ça se rapporte à tout ce qu'il vient de dire un peu plus haut, donc ça concerne les faux enseignements, mais aussi la vérité de Dieu qui est présentée de manière positive. C'est-à-dire, on voit ici, Paul ne fait pas que... dénoncer ce que font les faux docteurs, ni d'exposer la fausse doctrine. Il expose la vérité et il dit, au lieu de regarder comme cela, voilà comment vous devez considérer les choses. Et il dit à Timothée, tu seras un bon ministre si tu fais ainsi, si tu proposes ainsi les choses aux frères. Il dit donc, il faut, alors le sens de exposer ici, hein, en exposant, c'est pas simplement de dire les choses, c'est le fait de mettre sous ou de placer sous. C'est ça qui est le mot exposer ici. C'est le mot qu'on retrouve par exemple en Romains chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul parle de Prisca et Aquilas et qu'il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé, le mot était là, exposé leur tête pour sauver ma vie. » D'accord ? Donc c'est, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'ils ont, ils n'ont pas craint de placer leur tête sous, couperet même. Ils n'ont pas été en retrait, mais ils sont allés au devant même du danger, se mettant sous le danger, d'accord, pour suppléer aux besoins des apôtres. Et donc quand il dit tu exposeras ces choses aux frères, ça dit que tu mettras ces choses sous leur considération. Tu la portes, tu les présentes, tu leur proposes. Voilà comment vous devez réfléchir. Ne pensez pas à ce que les gens disent. Quand ils disent ne mange pas, ne bois pas, on ne se marie pas, faut pas manger quelques aliments. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et il dit, et rien ne doit être rejeté. Donc c'est ainsi que tu dois présenter ces choses. Et plusieurs fois, il parle de ces choses dans ce passage. On peut souligner, je n'ai pas tout souligné, mais au verset 11, il dit, déclare ces choses. Paul parle beaucoup de ces choses, verset 11, verset 13, je crois que c'est verset 13, il dit, pas verset 13, plutôt verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Et au verset 16, il dit, veille sur ton âme, persévère dans ces choses. Donc, il y a des choses, il y a un corpus, on pourrait dire, de choses que le serviteur doit connaître, dans lesquels il doit persévérer, et en ce qui concerne Timothée, qu'il doit présenter aux frères. Et il doit présenter ici la parole de Dieu. Je crois que ces choses concernent certainement la parole de Dieu qu'il doit leur présenter. Le bon ministre de Jésus-Christ ne doit pas laisser les choses qui sont mauvaises courir dans l'église, par exemple, c'est ce qu'il dit ici, hein, voilà, il y avait un faux enseignement, mais il doit les contrer, pas de manière simplement négative en disant ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, vous ne devez pas faire ça si vous ne devez pas faire cela, mais en exposant positivement aussi la vérité, c'est-à-dire Dieu, ce que Dieu a créé est bon, voilà comment vous devez penser les choses. C'est ce que Paul dit ici pour le bon serviteur. Il doit être, en 2 Timothée 2:22, il disait ceci, hein. Il disait qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ça, nous sommes tous serviteurs du Seigneur. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc le bon ministre ne doit pas fuir sa responsabilité, on pourrait dire, hein, d'affronter l'erreur qui risque de se propager dans l'Église. Il doit l'affronter, il doit la combattre, mais pas simplement d'une manière, comment on va dire, défensive, quoi. Hein. En disant ça c'est pas bon, vous devez pas faire ceci, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Il doit l'exposer, dire que c'est faux, mais en même temps il doit présenter positivement la vérité, ce que la contrepartie qui est la vérité, pour que l'enfant de Dieu apprenne à baser sa réflexion non pas sur ce qui est mal, mais sur ce qui est bien, non pas sur la fausse doctrine mais sur la saine doctrine. Il y a un risque, hein, parfois, hein, de réfléchir uniquement qu'à partir de ce qui est faux. Hein. Par exemple, quand on est malade, ça arrive que des fois les gens sont malades, hein, et ils se concentrent parfois sur la maladie, hein, et sur les raisons de la maladie, et sur pourquoi ils sont malades, et sur pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose. Il y en a qui trouvent des raisons. Parfois, il y en a qui disent c'est les démons, c'est le démon de la fatigue, c'est le démon de la colère, c'est le démon de ceci, le démon de cela. Enfin, bref, il se focalise sur le mal. On peut se focaliser sur le mal et pas sur ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire sur Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Par exemple, l'apôtre Paul, quand il avait une écharpe dans la chair. Il a dit, j'ai eu une écharpe dans la chair, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, un ange de Satan qui était là pour me souffleter. Mais après, c'est fini. C'est la seule fois où il dit juste pour qu'on sache que c'est un ange de Satan. Mais après, il a fini de parler de Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, trois fois, j'ai prié le Seigneur de le retirer de moi. Tu vois? Mais il montre que sa pensée est sur le Seigneur. D'accord? Je parlais la dernière fois avec quelqu'un qui dit, oui, mais bon, on parlait du péché. Il dit, voilà, j'ai du mal avec ça. Il dit, attends, écoute-moi. Détourne ton regard de ton péché. Et puis porte-le sur le Seigneur. Parfois, on a le regard sur ce qui est négatif, sur le péché, ça peut être le péché, et on s'apitoie sur soi-même. Et quelque part, voilà, c'est tout notre univers, c'est mon péché et moi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit, on parviendra à relever la tête. Il faut regarder à Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, au prix qu'il a payé pour nous pardonner de nos péchés. Et la puissance du sang de Christ qui nous purifie de tout péché, si nous confessons nos péchés. Et donc, il faut regarder à la solution, si j'ose dire, hein, quelque part, à ce qui est positif. Et donc, il faut présenter, parfois, la vérité positivement ainsi. C'est-à-dire, oui, il y a un péché, mais il y a Jésus-Christ qui a payé pour le péché. Tu es un enfant de Dieu, tu peux te repentir, tu te repens. C'est là qu'il faut insister, et pas forcément, vous comprenez ce que je veux dire, sur ce qui est purement négatif. Donc, l'apôtre Paul, je crois, c'est ce qu'il fait ici avec Timothée, en exposant ces choses et ces choses. C'est ce dont il vient de parler, je crois, particulièrement concernant le fait que Dieu a créé ce qui est bon et rien ne doit être rejeté. Ça, c'est la vérité positive qu'il faut présenter et c'est sur elle qu'on doit bâtir. On bâtit toujours sur la vérité positive de l'Évangile. C'est comme cela que l'on croit et pas simplement en se focalisant sur la fausse doctrine ou sur l'erreur. Troisième point que je voudrais souligner ici, c'est que le bon ministre aussi rejette énergiquement les discours superficiels. Repousse les contes profanes et absurdes. Et parfois, vous avez repousse les contes profanes de vieilles femmes. Alors, Paul ne manifeste pas ici un préjugé contre les vieilles femmes. Quand j'étais petit, je lisais ces versets, ça m'a toujours fait rigoler. Parce que, je dis, on pense toujours que les vieilles femmes causent beaucoup. Quand on est petit, on entend cela. Et on dit même la Bible parle des vieilles femmes qui causent, et l'apôtre Paul parle de vieilles femmes qui racontent des sornettes, mais ce n'est pas un préjugé contre les femmes âgées ou les vieilles femmes, parce qu'on voit que Paul est très respectueux des personnes âgées. Et il enseigne même dans cette même lettre, Timothée, à être respectueux des personnes âgées. Regardez au chapitre 5 et au verset 1 ce qu'il dit. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, et puis là, les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc, il n'y a pas ici une espèce de, comment c'est ça, de la misogynie, c'est ça, hein, voilà, par rapport aux femmes ou quelque chose contre les femmes âgées. L'expression, en fait, compte de vieilles femmes était apparemment très courante. Et il semble que cela désignait péjorativement, de manière péjorative, des discours qui étaient des discours superficiels, vains, vides, qui n'apportaient absolument rien, des mythes ou des fables, quoi, souvent. Et donc, il paraît que les philosophes de l'époque utilisaient cela pour qualifier les choses qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ce sont des contes de vieilles femmes sénile, ça n'a aucun intérêt. C'est ça que ça voulait dire ici. Donc, l'apôtre Paul reprend probablement cela. Et donc, on se rappelle dans cette lettre qu'il avait déjà interpellé Timothée au verset 14 du chapitre 1 sur les fables. On ne va pas revenir là-dessus. Hein. Verset 14, il dit, chapitre 1 et au verset 4, peut-être, non ? J'ai dit 14. Voilà, verset 4. Il dit qu'il lui adresse l'exhortation de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de l'œuvre de Dieu. Donc ici, c'est ce qu'il, je pense que c'est ce qu'il y a en tête ici. Le bon serviteur, il ne s'attache pas à ce genre de ragots, de choses que l'on parfois fait circuler, hein, que l'on peut entendre soit à la radio ou soit de superstition, hein. Parfois même au sein des églises, ça dépend comment on a grandi, dans quel milieu on a grandi, on arrive parfois avec un petit peu de superstition et puis on croit des choses qui sont franchement farfelues. Et parfois on utilise cela comme des vérités. Il dit non, le serviteur de Dieu se détourne de ces choses, il les repousse. Hein. Il les repousse, c'est-à-dire c'est une manière forte et énergique de dire qu'il doit s'éloigner de ce genre de choses, qu'il doit les rejeter. 2 Timothée 2, 23. Par exemple, si vous regardez 2 Timothée 2, 23, il dit ici, repousse les discussions folles. Même mot ici. Hein. Tout ce qui, il dit, parce que, sachant qu'elles font naître des querelles. Si. Parfois, ça rentre dans la catégorie des choses qu'il faut repousser. Parfois, on rentre dans une discussion, même parfois, soi-disant entre guillemets théologique, où les gens sont crispés sur des positions, puis on fait monter la mayonnaise. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sépare en chaîne de faïence entre deux frères, et puis on n'est pas d'accord, il y en est fâché l'un avec l'autre. D'accord? Parce que ça a commencé par une discussion qui était une discussion folle, on n'aurait jamais dû avoir ce genre de discussion. Il dit qu'il faut que le serviteur de Dieu repousse cela, qu'il s'éloigne de ce genre de choses. Il doit tout de suite stopper cela quand il sent ce genre de choses arriver. Il ne se laisse pas entraîner sur ce genre de terrain. On trouve la même chose en Tite, chapitre 3 et au verset 10, je crois, il dit ici. Non, c'est Tite, j'ai mis quoi? 3.10, est-ce que j'ai mis la bonne référence? Non, c'est peut-être pas là, c'est pas, j'ai mal mis, je pense. Ah oui, je suis pas en 3.10, je suis en 2.10, voilà, c'est ça. Il dit éloigne-toi, après, c'est le même mot, c'est le même mot, éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions, hein, sur des choses, etc. Donc, trois choses, je reviens là-dessus et on termine là-dessus. Hein. L'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, particulièrement le ministre de l'Évangile, il doit se nourrir de la parole de Dieu. Et il doit aussi exposer, proposer, mettre sous l'attention des autres la parole de Dieu, les vérités de la parole de Dieu, l'aspect positif de la parole de Dieu, les vérités positives de la parole de Dieu. Et puis il doit se détourner aussi de tout ce qui est farfelu, inutile, profane. Le mot profane ici, c'est ce qui n'est pas sain. Des choses qui sont des... Le mot, c'est bébélos, qui a donné, peut-être ça ressemble à bibelot. Des bibelots, quand il y a des bibelots à la maison, c'est des choses qu'on met partout. Ce n'est pas le vase de Chine, de la grand-mère, qu'on garde soigneusement. C'est un bibelot, c'est une fête à prendre la poussière. Il dit, voilà, les bibelots spirituels ne doivent pas être considérés. Okay? Et le serviteur de Dieu doit se détourner de ces choses-là. Je voudrais lire juste une citation que j'ai trouvée dans un commentaire de John MacArthur, d'un puritain qui s'appelait John Owen, théologien puritain, et qui écrit que, il écrit ceci, « Un pasteur peut remplir les bancs de son église, son rôle de communion, les bouches du public, mais ce qu'est ce pasteur à genoux, en secret, devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant, c'est tout ce qu'il est. » J'ai bien aimé cette citation, c'est-à-dire c'est bon pour nous tous. C'est-à-dire parfois on peut chercher à briller, à être en faisant beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ce pasteur dit que ce que l'on est véritablement, c'est ce que l'on est devant Dieu déjà, et c'est ce que l'on est devant Dieu dans l'intimité de la prière, sans que personne ne voit. Donc on peut pas, on ne compare, ça nous pousse à ne pas comparer les gens par les ministères qu'ils ont. Et j'ai entendu c'était dans un message que j'écoutais, ce pasteur, un pasteur disait que Billy Graham, vous vous souvenez de Billy Graham, Billy Graham a une fois rassemblé tout son staff, il y avait plusieurs personnes, et il leur a dit, beaucoup d'entre vous dans cette salle seront récompensés bien avant moi dans le royaume de Dieu. Et les gens ont dit, ouais, ça c'est de la mauvaise modestie, c'est de la fausse modestie, tu dis ça comme ça, mais tu sais bien avec tout ce que tu as fait. Il a dit, non, je suis sérieux. Il a dit, parce que Dieu ne récompense pas le ministère fructueux, il récompense le ministère fidèle, l'homme fidèle, pas l'homme fructueux. Il dit qu'il y a des gens qui peuvent servir de manière infidèle avec une assemblée qui croit. D'accord ? Qui peuvent faire de grandes choses, mais tout en étant infidèles au Seigneur. Et Dieu ne dit pas, viens entre bon et, j'allais dire, fructueux serviteur, il dit bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses. Donc chacun d'entre nous, il nous semble concerné ici. D'accord ? Et ce que Dieu regarde, ce n'est pas qui fait quoi, quel ministère celui-ci occupe par rapport à celui-là, c'est quelle fidélité on a. Est-ce qu'on se nourrit de sa parole ? Est-ce qu'on nourrit les autres de sa parole ? Est-ce qu'on évite tout ce qui est profane pour nous concentrer vraiment sur ce qui est saint ? Que la parole du Seigneur nous aide à grandir, à croître en lui. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Et puis, j'ai parlé beaucoup.